Voilà, bonjour Christine, bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour Jérôme, merci pour votre invitation et bonjour à tous les auditeurs de Radio Maria.
Alors peut-être Christine, pour commencer, je vais vous laisser peut-être vous présenter à nos auditeurs justement.
Bonjour, donc moi je suis historienne, je suis spécialiste des chrétiens d'Orient à la base. Donc je travaille sur l'intégration des chrétiens d'Orient en France. Et puis par extension, parce que donc l'histoire des chrétiens d'Orient et de leur intégration ne peut pas se passer donc d'un contexte. Je suis aussi donc spécialiste de la géopolitique du Moyen-Orient, puisque comme le montre l'actualité au Liban, ou en Syrie, ou en Irak, avec le voyage du pape au mois de mars en Irak, donc la géopolitique du Moyen-Orient joue beaucoup sur l'avenir et le sort des chrétiens d'Orient. Mes domaines de recherche, en gros, sont l'intégration, mais aussi les questions d'identité et les questions identitaires aussi, identitarisme, puisque donc pas seulement identitarisme religieux, c'est aussi identitarisme culturel, puisque donc on verra que il y a des univers très différents, notamment au Moyen-Orient. On peut être chrétien, mais avec des cultures différentes en Irak, en Syrie ou au Liban, plus ou moins d'ouverture ou plus ou moins de conservatisme.
Alors justement, Christine, l'intérêt que vous portez à toutes ces questions et qui font aujourd'hui votre domaine de compétence sont liés, j'imagine, à votre histoire personnelle aussi. Au départ.
Oui, bah, à la base, je ne voulais pas travailler là-dessus. Et puis, en fait, comme dit Mgr Capucci, qui était l'évêque de Jérusalem, l'évêque grec catholique, il ne faut pas renier sa nature, il ne faut pas renier ses origines. Et en réalité, donc, mon père est Libanais. Alors, lui, il est né à Madagascar parce qu'il fait partie de ces Libanais qui sont en émigration. Donc, il a émigré. Sa famille a émigré, donc a quitté le Liban en 1948, et lui, il est né un peu plus tard à Madagascar. Donc, par mon père, cette histoire des chrétiens d'Orient, elle est très marquée dans ma famille paternelle, où donc ma famille paternelle est une famille orientale, chrétienne, arabe, grec-catholique, peut-être on reviendra là-dessus, sont des catholiques orientaux, ce qui est une particularité avec une culture différente, et puis par ma mère, je suis donc française. Et puis, pour ceux qui connaissent un peu Marseille, donc ma mère est marseillaise, comme on dit souvent à Marseille, d'origine, comme vous pouvez voir dans les films de Marcel Pagnol, avec un accent et une culture où on parlait le marseillais. Et j'ai en fait grandi dans ces deux univers bien différents, donc un univers culturel arabe, puisque mes grands-parents ne parlaient pas le français. Et donc, on a un phénomène de vase clos, où il y a toute une série de migrants qui sont arrivés après la Seconde Guerre mondiale et après le départ des Français du Liban et de la Syrie. Donc, ils se sont installés à Marseille. Et puis, de l'autre côté, j'ai cet identitarisme marseillais qui correspond, même si de nos jours, ça fait un peu cliché, mais vers cette génération d'origine marseillaise qui correspond beaucoup à ces films de la trilogie de Marcel Pagnol. D'ailleurs, j'ai baigné là-dedans avec Fernandel et tout ça. C'est tout un univers culturel assez intéressant. Et donc oui, j'ai passé mon enfance entre deux cultures, c'est-à-dire que le samedi, j'étais chez les Orientaux avec une culture orientale, et le dimanche, j'étais non pas chez les Français, mais chez les Marseillais avec un accent, avec des traditions, des pratiques comme la messe de minuit, l'ucacciofio, etc. Donc des pratiques qui sont à Marseille et bien sûr à la Provence. Voilà, donc oui, c'est assez intéressant. Et disons que au début, ça peut être un peu perturbant, mais j'ai grandi là-dessus. Et ce qui fait que, en fait, je passais régulièrement de l'un à l'autre. Et finalement, c'est ce qui a fait de moi une sorte de médiatrice ou de pont interculturel entre les deux. Et c'est ce qui a fait aussi ma vocation, puisque pendant longtemps, j'ai travaillé avec les réfugiés sur l'intégration, puisqu'il fallait avoir des gens qui comprennent la culture des réfugiés afghans, irakiens, syriens, et en même temps les aider à s'intégrer dans la société française. Donc, c'est pas facile, parce qu'on a des univers culturels bien différents, et selon les périodes, alors je suis pas la seule, hein, il y a toute une génération, toute ma génération, où on sert très souvent de médiation, et c'est vrai que même si à la base on ne voulait pas faire ça, petit à petit, on a senti une sorte d'appel ou de vocation, ou on peut dire de solidarité, ou de volonté d'entraide, en fait, puisque malheureusement, les réfugiés orientaux sont toujours là et ils ne cessent d'arriver. Et puis, on voit quand même petit à petit entre la Palestine et le Liban actuellement, qui est en grande crise, on voit de plus en plus. Donc, j'ai des amis libanais qui ne cessent de venir en France, qui quittent leur pays. Et donc oui, c'est très difficile. Donc oui, j'ai grandi entre ces deux cultures et oui, c'était entre guillemets prédestiné. Voilà.
Oui, c'est ces deux cultures, c'est ces deux traditions culturelles importantes hein, qui ont chacune leur caractère propre, assez fort, même marqué, hein, qui vous a donné aussi cette compétence aussi pour la médiation.
Tout à fait. Alors, il faut rajouter qu'on a deux domaines, enfin deux familles ou deux cultures bien différentes dans un contexte particulier. Les Marseillais, à la base, les Marseillais de l'époque, hein, dont mes parents se sont mariés en 72, donc vous imaginez le contexte. C'était un des premiers mariages mixtes. Il n'y avait pas tant de mariages mixtes dans un contexte post-guerre d'Algérie et compagnie. C'était vraiment particulier. Donc, on a deux univers où on a des personnes, je dirais, entêtées ou têtues et qui restent dans leur domaine et en même temps qui ont cette volonté d'ouverture et de dialogue. Et disons que la religion n'a pas arrangé les choses puisque mon père est grec catholique et ma mère est catholique romaine. Donc ce sont deux rites bien différents, même s'ils sont catholiques. Et c'est vrai qu'il y a des dimanches où j'allais à la messe chez les Romains, comme on dit chez nous, c'est-à-dire à la messe classique, hein, la messe que l'on dit donc en France, dans les paroisses de Marseille, de France en fait. Et puis il y avait des dimanches où j'allais à la messe de rite byzantin, où notre liturgie est en grec et en français et en arabe, puisque notre patriarche a participé à Vatican II. Et depuis Vatican II, en fait, notre liturgie est aussi dans la langue du pays, comme pour le rite romain. Donc oui, ce sont deux pratiques, deux conceptions différentes, deux conceptions catholiques, ça c'est sûr, mais deux conceptions différentes, où on voit, c'était rigolo d'une certaine manière, je pense souvent à ce film « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?», où on voit en fait, même si c'est le même Dieu, la même Sainte Vierge, on a deux regards différents, et surtout des pratiques. Par exemple, d'un côté, on voyait se côtoyer des icônes, et de l'autre, cette vieille tradition des statues de la Sainte Vierge marseillaise, où à Marseille, il n'est pas possible d'avoir un foyer sans avoir la protection de la Sainte Vierge. Et donc, on a cette tradition d'avoir une Sainte Vierge en carton ou en pierre qui protégeait la maison. Ce qui fait que moi, j'ai grandi avec deux grandes statues de la Sainte Vierge qui faisaient 50 cm, et puis la statue de mon arrière-grand-père, et la statue que mes parents avaient achetée puisqu'il fallait rentrer dans ses habitudes marseillaises. Et en même temps, j'avais des icônes. Et puis le plus comique, je pense, c'est cette fameuse bataille des saints où en Occident, on a beaucoup Saint-Michel-Archange et en Orient, on a surtout Saint-Georges. Et la famille de mon père étant d'origine de la vallée des chrétiens en Syrie, et donc c'est une vallée qui a quand même un passé très très important dans l'histoire du christianisme, puisque c'est encore une région en Syrie où il n'y a que majoritairement des chrétiens. Alors c'est une région qui a beaucoup souffert avec l'État islamique, avec les problèmes actuels de la Syrie, mais les chrétiens résistent, et on a dans cette vallée le monastère Saint-Georges, et c'est vrai que régulièrement on avait des combats entre Saint-Georges et Saint-Michel. Et finalement, on réduisait la situation en disant bon, on va prier les deux sont efficaces. L'autre exemple aussi, et c'est un exemple d'acculturation, c'est le Saint-Antoine de Padoue et Saint-Antoine Ermite, où en fait, on utilisait la même photo pour prier pour les orientaux Saint-Antoine Ermite, qui est le père donc, du monachisme. Et puis de l'autre, on avait Saint-Antoine de Padoue, qui lui, bien sûr, on le sait, qui retrouve tout. Et on a une vieille dévotion marseillaise, le culte de Saint-Antoine de Padoue à Marseille est très fort. Et donc on a cette vieille habitude de donner de l'argent à Saint-Antoine de Padoue lorsqu'on perd des choses. Alors c'est vrai qu'on est entre bondieuserie et dévotion, mais c'était assez rigolo avec des pratiques au niveau du carême complètement différentes. Parce que donc les Grecs catholiques commencent le carême un peu avant, en ne mangeant pas de lait, en ne mangeant pas de viande, mais pendant au-delà de 40 jours en fait. Et donc c'était assez rigolo parce que d'une famille à l'autre, on variait les pratiques. Voilà.
Et vous avez aussi, bien sûr, à Marseille même, la grâce hein, d'avoir cette église, l'église Saint-Nicolas de Myre. Hein.
Oui, alors j'en suis très fière. Et je pense que c'est à cause d'elle que je suis historienne. J'ai eu cette chance d'être baptisée donc, dans cette église. J'ai eu cette chance d'être baptisée par Monseigneur Carotte, qui était donc professeur au petit séminaire à Marseille, qui était un spécialiste des églises d'Orient. Donc on voit bien, pendant longtemps, donc Marseille a toujours été donc, un haut lieu des missions vers l'Orient. par exemple Monseigneur Eugène de Masneau, Monseigneur Lavigerie qui venait régulièrement donc avec les Pères Blancs donc à Marseille. Et c'est vrai que Saint-Nicolas de Myre est un haut lieu de pointe puisque c'est la plus ancienne église orientale, bien plus que catholique, hein, plus ancienne église orientale de France.
Et, oui.
Et en fait, elle est liée à l'expédition donc, d'Égypte en 1798, lorsque donc, Bonaparte a conquis l'Égypte et la Syrie et la Palestine. Donc, il a créé ce qu'il appelle, ce que l'on a déjà appelé le royaume arabe. Et les Français sont restés dans cette zone jusqu'en 1801. Et puis, la géopolitique, encore une fois, faisant que, entre-temps, donc, Bonaparte est devenu donc, empereur, il a créé l'Empire. Et ses objectifs n'étaient plus sur la Méditerranée. Après, il l'a regretté. Hein, dans ses mémoires à Sainte-Hélène, il a regretté d'avoir abandonné l'Orient et les chrétiens d'Orient. Mais c'est trop tard. Il a, entre guillemets, fait le choix de se développer vers l'Est de l'Europe. Hein, donc, on connaît toute l'histoire de l'Empire. Et donc, en fait, il a abandonné le royaume d'Égypte. Donc, il a laissé le royaume d'Égypte à l'Empire ottoman, en fait, et à l'Angleterre. Et là, c'est très important pour l'histoire de France et l'histoire donc de l'émigration orientale, puisque c'est la première grande vague des réfugiés chrétiens en France. Ils sont arrivés entre 1801 et 1805, et bien sûr ils sont arrivés à Marseille, qui était donc un grand port de commerce. Et là, donc, on a, si jamais donc, vous avez la possibilité sur Internet, vous avez des livres d'Augustin Sabre, qui est un historien marseillais, qui vous raconte l'arrivée en catastrophe de ces chrétiens d'Orient qui y avaient cru dans le royaume arabe, qui avait cru dans Bonaparte et qui croyait avoir un peu de démocratie et de liberté, et qui du jour au lendemain fuit le pays pour éviter les persécutions et les massacres, puisque l'Empire ottoman voulait récupérer le pouvoir, bien sûr, hein, comme cela se doit, récupérer le pouvoir et en même temps faire périr les prêtres, je vais y arriver, et les prêtres aussi, bien sûr. Et donc, si vous voulez, il y a cette période-là où on a donc des réfugiés chrétiens qui arrivent et qui s'installent à Marseille et qui sont regroupés en périphérie. Alors, en périphérie de nos jours, c'est le centre-ville de Marseille, au Courbouffet. Et ces réfugiés chrétiens, qui étaient donc orientaux, qui avaient un rite bien différent et qui ne parlaient pas le français, avaient besoin d'une église. Et cela correspond à la période où Marseille n'était plus un diocèse, c'était le diocèse d'Aix. C'était donc le diocèse d'Aix avait avalé le diocèse de Marseille. Et Monseigneur Ferdinand de Bossé, qui était donc évêque d'Aix et de Marseille, avait donné son autorisation pour créer une église, puisque donc ces chrétiens étaient catholiques, pour créer une église orientale. Et donc cette première église orientale, elle est née en 1821, donc à Marseille, dans le centre-ville, dans la rue Edmond-Rostand. Et elle est très très importante parce qu'elle est aussi le reflet de la géopolitique. Il fallait montrer la catholicité. Et donc, pour montrer cette catholicité des chrétiens d'Orient, il fallait établir un birritualisme.
Oui, c'est ça qui est c'est étonnant. Oui, un birritualisme. Oui, un birrite, hein, à la fois des messes en rite melkite et rite romain,
tout
c'est ça
fait. Tout à fait. Et c'est assez particulier. Mais en même temps, je dirais que c'est aussi pour ça que, finalement, l'ouverture avec les Français, les mariages mixtes, sont liés à ce birritualisme. C'est-à-dire qu'à l'époque, lorsqu'on a construit, donc, il y avait. Vous savez, les relations entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique romaine étaient un peu particulières. Et donc, il fallait prouver sa catholicité. Et l'évêque, à juste titre, avait dit « Ok, je vous laisse construire votre Église, mais pour prouver votre catholicité, il faut avoir deux rites. » Et donc, c'est le charme et c'est le côté fabuleux de cette Église. C'est-à-dire que jusqu'en 2008, prêtres catholiques romains et prêtres orientaux se succédaient dans la journée. Et il y a cette grande période de faste jusque dans les années 70, où le dimanche, on avait quatre messes, deux messes de catholiques romains, en rite catholique romain, et deux messes de rite byzantin.
De rite byzantin. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que finalement, ça s'est, Christine, ça s'est arrêté en 2008 alors,
Oui, alors en fait, tout simplement parce que malheureusement, il y a ce qu'on appelle un petit peu la déchristianisation. Vous savez, Marseille est une ville industrielle. Et même si au niveau des baptêmes et des actes de mariage, on voit bien que les gens, les Marseillais croient toujours, au niveau des pratiques, ça commence à devenir un petit peu difficile. Et les audiences au niveau de la messe, il y a de moins en moins de public. Et le patriarche à l'époque, Grégoire III Laham, qui était notre ancien patriarche, puisque actuellement on a un nouveau patriarche qui s'appelle Monseigneur Joseph Apsi, qui était évêque de Damas avant. L'ancien patriarche a fait le choix, en fait, pour ne pas gêner les autres paroisses, Il avait demandé à l'époque à Monseigneur Pontier, qui était évêque de Marseille, de supprimer ce biritualisme parce que finalement, c'était un petit peu, vu que dans la rue parallèle, on a l'église Saint-Joseph, et un petit peu plus haut, dans la même rue, on a le couvent des Dominicains, ça faisait un petit peu concurrence. Et donc, du coup, le patriarche a fait le choix de spécialiser, entre guillemets, cette église. Ce qui, à mon goût, est un peu mauvais, je le comprends très bien, mais c'est un peu mauvais parce que, du coup, on se retrouve entre orientaux. Et sur le plan donc, sociologique, c'est vrai que ça fait avec les événements politiques. Quelquefois, selon les événements, ça en finit en communautarisme, en fait. C'était la force de Saint-Nicolas de Myre d'être très ouverte, en fait. Puisque, alors je ne sais pas, donc vous à Toulon, mais nous à Marseille, on a plusieurs églises. On a Notre-Dame du Liban avec les Maronites, on a Notre-Dame de Chaldée, on a aussi donc une église copte. Et le problème de toutes ces églises-là, c'est qu'elles sont communautaires et elles sont repliées sur elles-mêmes. Alors que la force de Saint-Nicolas de Myre, c'est que, comme je vous disais, à la fin de la première messe, on faisait exprès. La première messe était romaine, la deuxième messe était byzantine, la troisième était romaine pour obliger les gens à se croiser. Et ce qui était assez intéressant, et ça c'était avant Vatican II, puisqu'il n'y avait pas vraiment de différence entre le rite romain et le rite byzantin dans l'ancien rite, comme on dit avant Vatican II, c'est que les gens, en fait, venaient à la messe et ils ne réfléchissaient pas, puisque, en fait, il y avait quand même, on a, par rapport à l'ancien rite, il n'y avait pas beaucoup de différence, si ce n'est la langue liturgique, puisque le dogme, la foi est le même, hein, les deux sont les mêmes. Voilà. Donc les pratiques, les saints sont les mêmes, la communion. Alors c'est vrai que pendant longtemps, on a communié avec le pain, sans le vin bien sûr, comme les orthodoxes, mais maintenant depuis Vatican II, on communie avec l'hostie et il n'y a pas vraiment de différence. Donc en fait, je dirais que c'est la déchristianisation et la volonté de s'intégrer définitivement dans le diocèse qui a fait qu'on n'a plus ce biritualisme, oui.
Mais alors, Christine, avec toute cette richesse qui est la vôtre aujourd'hui, vous n'avez pas eu envie d'écrire un livre ou...
Oui, alors oui, c'est le temps qui me manque parce que pendant longtemps, j'ai fait visiter les églises de Marseille, les églises d'Orient. Oui, j'ai eu envie d'écrire un livre et d'ailleurs, c'était ma thèse. À partir de Saint-Nicolas de Myre et de Saint-Julien-le-Pauvre, nous avons deux églises grecques catholiques en France. Vous avez Saint-Julien-le-Pauvre et Saint-Nicolas-de-Myre. C'était donc de travailler sur l'intégration donc, des Melkites en France et toute leur histoire, en fait. Mais après, comment dire, c'est le temps qui me manque. Et je préférais un peu, comme certaines personnes, parler, présenter, plutôt que lire, parce que les livres restent. Mais les rencontres, les échanges, un livre, ça va finir en bibliothèque sur une étagère, alors que les rencontres marchent.
Bien sûr, et les témoignages.
Voilà, c'est ça. On a encore des témoignages. Alors, je vais prendre l'exemple du Père Kolb ou de Monseigneur Lavigerie, vous voyez, ou Monseigneur Eugène de Masneau, où là, on a fêté aussi l'année dernière Monseigneur de Belzunce. Donc, on a encore des témoignages et des souvenirs qui restent, surtout à Marseille, où il y a, pardonnez-moi, hein, mais on mélange à la fois dévotion et bondieuserie. La foi est forte. À Marseille, les Marseillais sont très attachés à Notre-Dame de la Garde. Et en même temps, c'est vrai que, ils sont pris au niveau de leur vie quotidienne par le monde. Et donc, c'est vrai qu'au niveau des pratiques, ce n'est plus comme avant. Et ça, sociologiquement, au niveau des archives de l'archevêché, on le voit, pour avoir travaillé dans les archives, on le voit à peu près à partir des années 80, mais ce n'est pas propre à Marseille. Hein. C'est un phénomène
national. Oui, c'est un phénomène global. Et Christine, vos études, notamment en histoire, et puis vous avez parlé également de la géopolitique, vous les avez faites à Aix-Marseille ?
Alors, je les ai faites à Aix et puis après ensuite à Paris, puisque puis sur Paris. Aix, les chrétiens d'Orient ne sont pas forcément, enfin à l'époque j'étais têtue encore une fois, je suis très orientale ou très marseillaise, puisque Marseille c'est la Méditerranée. Vous savez qu'à Aix-en-Provence on a un pôle qui est très important,
très important
sur l'islam.
Oui.
Ouais. Et donc en fait je ne rentrais pas dans les cases.
Ah oui. ça m'étonne, donc, ça coup, m'étonne pas.
Je me suis entêtée et je suis passée sur Paris. Alors d'abord Montpellier pour ce qu'on appelle maintenant le Master 1, et ensuite donc sur Paris. Et après, je suis retournée au Liban, en fait, et en Syrie. Mais je ne pouvais pas passer autrement que par Paris, où là, je suis passée par la petite porte ou la petite fenêtre pour me faufiler, valider mon doctorat et tout le reste. Mais c'est vrai que les chrétiens d'Orient en France, on est un peu persona non grata. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, sur le plan universitaire, sur le plan de, pardonnez-moi ma franchise, hein, sur le plan universitaire et université d'État, c'est surtout l'islam.
Oui.
Qui explique qu'il y a un autre chapeau sur lequel je travaille, mais qui fait que je n'ai pas forcément, encore une fois, le même angle d'attaque, c'est le dialogue islamo-chrétien.
Oui, c'est politique. Hein.
Tout à fait, oui. Et les chrétiens d'Orient n'ont pas du tout le même point de vue que certains universitaires que l'on peut voir, etc. Et pour les auditeurs, je n'aurai pas la possibilité de l'évoquer, mais pour les auditeurs, je vous invite à lire des écrits de Monseigneur Claverie. Il en a fait deux ou trois où il explique que l'islam, c'est une autre manière de penser. Et il parle aussi de la différence entre missionnaire et évangélisation. Si vous voulez, donc au Moyen-Orient, d'abord au Moyen-Orient, on ne peut pas convertir les musulmans puisqu'on est sous domination musulmane, même si on a des états laïcs. Il y a quand même une majorité musulmane, donc on fait très attention. Donc l'évangélisation, elle va se faire par nos actes, par l'habit des prêtres, par nos pratiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des conversions.
Bien sûr, oui.
Et ce qui fait que on a des angles d'attaque. Là, c'est, pardonnez-moi, c'est le côté chrétien d'Orient qui sort en moi. On a des manières de voir, on a des manières de percevoir les choses qui sont complètement différentes. Ou par contre, en Occident, on reste dans la mission, avec tout le respect que j'ai pour les missionnaires, où là, on arrive, on apporte des connaissances, mais on ne dialogue pas forcément avec l'autre et on n'essaye pas de comprendre.
Oui.
Pour vous donner un exemple, moi, je suis, entre guillemets, fan, comme on dit à Marseille, de Matteo Ricci, qui est un jésuite qui a converti pas mal de Chinois, ou par exemple de Monseigneur Claverie. Monseigneur Claverie n'est pas parti en croisade, hein, comme on dit. Il avait une conception du dialogue, et en fait, après, comme on dit, c'est les échanges, et après la grâce de Dieu, qui faisait les conversions. Donc, ce sont deux angles d'attaque pour éviter les conflits, en fait, hein, parce que au Moyen-Orient, on a quand même, vous avez dû le voir avec la déclaration du patriarche maronite Rai, on a quand même une marge de travail, une marge d'action qui est quand même très très limitée.
Et oui, alors Christine, malheureusement on arrive déjà au terme de cet entretien, il y aura encore beaucoup à dire, mais justement pour ceux qui vous écoutent pour la première fois sur Radio Maria France, on aura la joie de vous retrouver dès le mois de septembre, hein, pour une émission. Je vais vous laisser peut-être juste en quelques mots, quelle va être la thématique de cette émission que vous allez proposer.
Cette émission va s'appeler Marie en Orient, et en fait, si vous voulez, c'est un peu par rapport à mon parcours. La Sainte Vierge en France est très très connue, mais en Orient, elle est aussi très très aimée. Et l'objectif, c'est de faire connaître les différents lieux de pèlerinage, les lieux d'apparition et les dévotions à la Sainte Vierge, et surtout ses messages, pour montrer en fait donc son pouvoir, sa puissance, son amour, et puis donc aussi pour raviver cette flamme. Un peu avec une touche orientale. Donc en fait, à travers des intervenants qui seront des orientaux, on découvrira comment en fait la Sainte Vierge parle en Orient et comment en fait elle fait l'objet de dévotions particulières. Ça vous permettra à la fois d'enrichir vos connaissances, mais surtout aussi d'élargir, puisque donc je ferai parler essentiellement des catholiques, où il y aura quand même quelques orthodoxes, mais d'enrichir votre foi et de voir le pouvoir de la Sainte Vierge.
Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci infiniment, Christine.
Merci.
Et à très bientôt.
Merci
donc.
À vous. Et merci aux auditeurs. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Merci.
À bientôt.
Merci.